Aujourd'hui, à 100 commentaires ou presque, j'en profite pour enfin terminer la création d'un épisode que j'ai commencé il y a très longtemps. Et tout comme Conan le Barbare le ferait, je constate à quel point il est toujours important de finir ce qu'on entreprend dans la vie. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode hors série de 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Pour bien comprendre pourquoi il s'agit d'un épisode hors série, il faut que je vous amène quelques années auparavant pour bien vous expliquer les véritables origines de 100 commentaires ou presque. Ça a commencé en 2014, quand j'étais encore une jeune recrue dans le monde des podcasts. J'avais envie d'en concevoir un dans lequel je pourrais parler de cinéma en compagnie d'un de mes amis à chaque épisode. Le format que j'avais choisi était d'enregistrer une piste de commentaires audio en temps réel pendant que mon invité et moi regarderions un film. Ainsi, nos auditeurs pourraient synchroniser leur écoute de ce même film avec nos commentaires contenus dans l'épisode, tout comme on peut habituellement le faire en écoutant les commentaires d'un réalisateur sur un film en DVD et en Blu-ray. Vous savez maintenant comment est né le titre « Sans commentaires ou presque » et à quoi il faisait originellement référence. Puis je dois vous avouer que je m'y suis pas mal attaché, c'est pour ça que j'ai décidé de le regarder une fois que le podcast a fait son reboot au cours de la dernière année, même si le concept a pas mal changé. Bon, je reviens à mon histoire. Après m'être procuré tout l'équipement qu'il faut pour enregistrer un podcast avec une qualité audio décente, moi et deux de mes amis avons enregistré deux épisodes prototypes afin de les mettre en ligne et que les auditeurs intéressés les écoutent. Le premier portait sur le film Superman 3, que j'avais enregistré en compagnie de mon bon ami Gary Wallet. J'ai pu achever le montage de cet épisode à 100% et j'en ai même donné une copie à Gary en souvenir. Malheureusement, un gros problème sur le disque dur de mon ancien ordinateur m'a fait perdre toutes les traces de cet épisode qui a jamais pu être mis en ligne. Donc, j'espère beaucoup que Gary a encore avec lui la clé USB que je lui avais donnée qui contenait le fichier MP3 de l'épisode. Le deuxième épisode de commentaires audio que j'avais enregistré était sur le film Conan the Destroyer, la suite du film Conan the Barbarian de 1982. L'invité qui était à mes côtés pendant l'enregistrement était Marc-André Roy, mon grand ami et spécialiste du personnage de Conan. Si le nom de Marc-André vous dit quelque chose, c'est parce que c'est mon invité dans l'épisode sur Blade Runner 2049 qui est sorti en décembre dernier. On a vraiment eu beaucoup de fun pendant l'enregistrement et c'était juste une question de jour pour que je mette la touche finale à l'assemblage de l'épisode avant de pouvoir le mettre en ligne. Mais encore une fois, la technologie de 2014 n'était pas de mon côté. Un matin, en ouvrant le fichier audio de l'enregistrement pour m'avancer un peu dans le montage, un gros message d'erreur flashait sur l'écran pour signaler une corruption du fichier audio de l'enregistrement. C'était plus que 30 minutes de contenu qui était devenu complètement irrécupérable. Fait que dans ma grande frustration, j'ai lancé l'ordinateur au bout de mes bras en jurant d'abandonner pour toujours le projet de finir le montage de l'épisode sur Conan the Destroyer. On revient maintenant 4 ans plus tard, en 2018. Après tout le plaisir que j'ai eu à retrouver la chimie que j'ai depuis des années avec mon pote Marc-André quand on parle de cinéma et qui a vraiment transparu dans notre épisode sur Blade Runner 2049, j'ai beaucoup repensé à cette soirée d'été en 2014 où on a parlé avec passion de Conan, dernière Baby Crow. Alors, j'ai donc dépoussiéré mon ancien ordinateur et j'ai pu retrouver notre enregistrement original. Même si rien peut être fait pour sauver les premières minutes, il reste encore 1h20 de matériel qui est parfaitement écoutable et qui est très informatif et divertissant. Voilà pourquoi j'ai décidé de ressusciter et de finir, une bonne fois pour toutes, le projet de cette piste de commentaires audio sur Conan the Destroyer. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous possédez une copie de ce film chez vous, c'est maintenant le moment de faire l'expérience du podcast sans commentaires ou presque dans son format original. Je vous invite à mettre le film dans vos lecteurs DVD, Blu-ray et pourquoi pas VHS ou Laserdisc et laissez ma voix et celle de Marc-André vous accompagner dans votre visionnement de ce classique du cinéma fantastique des années 80. Mais juste avant de commencer, j'aimerais ça vous donner une mise en contexte de l'histoire et des personnages du film puisque la partie dans nos commentaires audio qui en parle est manquante. Mais si vous n'avez pas Conan the Destroyer sous la main, sachez que la discussion que Marc-André et moi avons s'écoute aussi très très bien sans regarder le film. Donc Conan le Barbare, joué par Arnold Schwarzenegger, ainsi que son acolyte, le voleur Malak, sont approchés par la reine Taramis dans le but de leur confier la mission d'escorter la princesse Jaina jusqu'à une forteresse mystique pour qu'ils s'emparent d'une corde qui permettra à Taramis de ressusciter Dagoth, le dieu des rêves. Conan accepte la quête et tout au long du périlleux voyage, le barbare sera aussi épaulé par Bombata, le garde du corps de Jaina, ainsi que par le sorcier Akiro, une féroce guerrière amazone nommée Zula. Pour vous assurer de bien synchroniser le film avec nos commentaires, veuillez commencer la lecture du film à précisément 27 minutes 15 secondes. Comme ça, nos commentaires sont bien alignés sur ce que vous allez voir à l'écran. Ça commence au moment où Conan et son groupe viennent tout juste d'arriver à la mystérieuse forteresse mystique. Alors sans plus attendre, débutons immédiatement cet épisode qui attend depuis si longtemps d'être entendu. Le film Conan the Destroyer, l'année 1984, réalisé par Richard Fleischer et mettant en vedette Arnold Schwarzenegger au sommet des capacités de son physique musculeux, Grace Jones au sommet de sa personnalité excentrique et le joueur de basketball Will Chamberlain au sommet de ses 7 pieds 1 pouce. Et pour ceux qui regardent le film en même temps, veuillez appuyer sur le bouton play de votre télécommande maintenant.
Ça m'amène à la réflexion de la musique dans ce film-là. Moi, je la trouve vraiment cool. C'est encore Basil Poledouris qui revient aux commandes, qui nous avait donné le thème mémorable de Conan the Barbarian, avec les trompettes, les tubas, puis boum, 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 boum. Puis, c'est dommage parce que le thème est encore là dans ce film-là. La musique est formidable, mais le thème, il est un petit peu plus soft, il est un peu plus édulcoré.
C'est la répétition de thèmes qu'on a vu du 1. Il y a plusieurs thèmes, là donc on va en avoir un autre là, que je vais commenter, là, le thème de l'orgie là, qui va être présenté dans un autre contexte complètement différent. Mais là, c'est vrai que les thèmes, il y a la musique thématique du film qui est différente de Barbarian.
C'est
là.
Ça, elle est un peu plus, comment dire, il y a des instruments avant, puis elle est un petit peu, puis il y a des petits coquillages qui se font aller, des petits carillons, puis elle est comme beaucoup moins virile, je sais pas.
Elle est moins présente, là, parce qu'il y a plus de dialogue. Faut dire que dans le premier, il y avait le narrateur extra-diégétique qui racontait une histoire un peu comme qui nous racontait à nous l'histoire qu'il avait vécu, mais qui racontait l'histoire de Conan. Ce narrateur-là, c'était la seule voix quasiment, à part les gros les grognements de Conan quand il se battait, parce que Conan n'a pas grand dialogue dans le premier.
Chose qui a été beaucoup changée ici. Regarde, il y a peut-être quoi, une dizaine de lignes, quelque chose genre Conan? Peut-être
dans
un
le
petit
premier,
peu plus
le
dans le premier. Puis là, maintenant,
Il parle avec Subotai, il parle de leur dieu, là, un coup qui casse la croûte là après l'avoir sauvé. Puis à part ça, il me semble que... Il fait sa promesse à la fin à Crumb, là, qui lui demande d'avoir revanche sur James Earl Jones.
Hell with it. C'est
quoi dans son nom? Je m'en souviens même plus.
C'est Tulsa Doom.
Ah ouais, Tulsa Doom, qui est un, entre autres, en passant, un vilain, le vilain, pas principal, mais un des vilains dans les nouvelles de Robert E. Howard. Tulsa Doom.
Mais tu sais, moi, ce qu'on m'a dit, en fait, tu me corriges, c'est au meilleur de la connaissance, c'est vrai, mais on m'a dit que c'était un vilain de l'univers de Red Sonja. Et non pas de Conan.
Ah, ça se peut. Peut-être je me trompe dans le lore.
C'est ça que j'avais lu en faisant mes petites recherches ici et là, mais...
Il ne faut pas se tromper avec le Red Sonja, qui était fait en film en 85 avec Arnold toujours, qui est le certain Kalidor. Parce qu'il y avait un problème de droit d'auteur de ramener Conan. En tout cas, non, en fait, le problème, c'était les droits d'auteur du personnage de Red Sonja, S-O-N-I-A, que Robert E. Howard a créé, qui est un vrai personnage qui apparaît uniquement dans la nouvelle Red Nails. Sauf que quand ils ont voulu refaire un film avec Red Sonja, il y a eu un problème de droit d'auteur et là, ils ont été obligés de caster Arnold juste dans un petit caméo spécial. Ils l'ont changé de nom, il s'appelait pas Conan, mais bien Kalidor, si je me trompe pas.
Exactement.
Puis Red Sonja, ils l'ont appelé Red Sonja, mais avec un J muet. Donc,
pour éviter les
pas muet,
judiciaires.
Mais un J en I, là, donc c'est S-O-N-J-A. En tout cas,
c'est intéressant, je ne savais même pas. Ça. Je pensais que c'était vraiment, au départ, Red Sonja, c'était vraiment une adaptation littérale. Mais en fait, c'est vraiment littéralement l'adaptation du stock de Robert E. Howard. Ah, ben, écoute, non, c'est intéressant, ça. C'est vraiment cool. On apprend toujours.
Mais Red Sonja apparaissait, si je me souviens bien, ou je pense que ça a été une des créations de... Je me trompe, il faut dire que j'ai pas ouvert mon livre de Conan depuis quelques années, là, mais je sais pas si Red Sonja appartient pas à Marvel Comics. Puis là était le litige où c'est que il pouvait pas, parce que je pense qu'elle a apparu en premier dans les comic books de Conan. Donc elle a été créée peut-être par Roy Thomas, qui était justement celui dont je parlais, là, qui a écrit ou co-scénarisé avec Jerry Conway. Mais en tout cas, il y avait un problème autour de Red Sonja.
C'est super intéressant parce que moi, c'est ça que j'allais parler. C'est bien beau, le personnage de Zula est vraiment cool, inoubliable, mais pourquoi pas avoir mis Red Sonja à sa place? Ça aurait pu être vraiment cool. Tu sais, tu joins les deux univers, puis ça aurait pu être vraiment un personnage secondaire très, très intéressant, puis ça aurait pu être un duo à l'écran très, très fort entre Conan et qui s'appelle pas Kalidor, mais vraiment Conan et elle. Ça aurait pu donner une dimension peut-être un peu plus spéciale et différente à l'ensemble que donnait Conan de.
Un genre de tag team, là, où c'est que les deux auraient pu. L'aventure, ça aurait été l'héroïne qui était en fait Bridget Jones, hein, je pense.
En fait, non, Bridget, ça, c'est l'affaire de. Ça, c'est les comédies romantiques. C'est Bridget Nelson.
Oui.
Puis pour faire notre lien avec nos 6 degrés de séparation, qui jouait la femme d'Ivan Drago, Dolph Lundgren, dans Rocky IV. Dolph Lundgren qui sortait avec Grace Jones et
Bridget Nielsen, qui était la première femme de Sylvester. Ben, peut-être pas la première, mais une des femmes de Sylvester Stallone.
Exactement, tout à fait. Ah, les années 80, le stardom des années 80, c'était un petit monde. Alors, tout le monde couchait ensemble, tout le monde se connaissait.
Il y avait beaucoup de cocaïne aussi, je pense que c'était un des problèmes avec Bridget Nielsen. Elle aimait trop faire le party et se donner à fond. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans les.
Ah oui, ça, regarde, j'ai une scène très très drôle. Regarde, check la tête de Conan rame. À chaque fois, il donne un coup de rame à la tête du gars en arrière. C'est très drôle, de son ami Malak.
Ah oui, j'avais jamais remarqué. Oh, petit.
Désolé, téléphone. Petit problème. Désolé, rappelez-moi plus tard.
Ici, bon. On voit le vilain qui est le wizard dans son château de cristal.
Ouais, regarde, on va juste redonner une indication de où est-ce qu'on est. Là, notre caravane a comme arrêté devant une espèce de château fait comme un genre de cristal ou d'un matériel extrêmement brillant et qui est en plein milieu d'un lac. Alors là, toute la compagnie faisait escale pour la nuit pour dormir et c'est là que le sorcier Totamon, quelque chose de genre, si je ne m'abuse, son nom, c'est comme transformé en genre de dragon de fumée, a kidnappé la jeune Jenna.
À la Spaceballs.
Oui. Excellent. A kidnappé la. Ah non, ça ne parle pas sur Spaceballs.
Ok, désolé.
Ah non, je pourrais te résumer le film tout de suite.
Oui.
Alors là, c'est ça, l'a kidnappé, l'a amené dans son château. Alors là, Conan et toute sa bande ont pris un radeau et sont rentrés dans le...
Ouah.
Rappelez-moi plus tard.
Bon. Alors, interlude. Alors, finalement, c'est ça. Ils ont besoin d'aller chercher un cristal qui vont leur permettre, après ça, le cristal est détenu par le magicien, le wizard, dans son château de cristal en plein milieu du lac. Ils ont besoin du gros diamant, en tout cas, un gros jewel, pour aller chercher ensuite la corne qui va faire revivre Dagoth. Et le cristal, seule la Vierge peut toucher, si je me souviens bien, au cristal.
Exactement.
Alors là, on voit Malak là, qui veut pas se mouiller là, parce que la seule entrée, ça a l'air... L'entrée était bloquée par les sortilèges du wizard et ils devront passer en dessous de l'eau dans un passage secret. Et là, Malak à la C-3PO là, désire rester en arrière et checker les chevaux ou checker le linge du monde qui abandonne sur le bord de la berge. Là.
Mais pour l'effet comédique, à la fin, il se rend compte qu'il est tout seul et il fait comme « Non, ils ont besoin de moi !» Et finalement, il trouve la dose de courage nécessaire pour pas rester tout seul et aller rejoindre la gang.
Vous allez excuser mes références à Star Wars, mais faut pas oublier que depuis l'apparition de depuis la création de la trilogie de Star Wars, tout le cinéma a changé avec Star Wars et un paquet de films sont allés piger un peu dans les techniques ou dans le scénario de Lucas. En tout cas, et même jusqu'à nos jours, Star Wars demeure.
C'est vrai, ça m'avait sauté ça m'avait tellement sauté aux yeux. Je pense qu'en 2006 ou 2007, il y a eu une adaptation d'un roman de fantasy puis de dragon qui s'appelait Eragon. Je pense que ça avait été écrit par un ado.
Je l'ai pas vu, mais je connais la couverture.
C'est ça.
La couverture du DVD.
Donc là, je regarde ça au cinéma avec ma mère et ma sœur, je m'emmerde comme ça se peut pas. Je me rends compte que c'est exactement le même structure de scénario et les mêmes personnages que A New Hope. On a une princesse qui se fait dès la scène d'ouverture se fait kidnapper par un méchant. Ensuite on s'en va vers un jeune garçon qui est comme le dernier d'une lignée comme un élu. Alors il se fait prendre en main par un vieux sage, tout ça, qui lui montre à exploiter son pouvoir. Par la suite ils partent tous ensemble aller chercher la princesse. Le mentor meurt, le jeune garçon s'en va avec la princesse. Après ça, il y a combat dans des véhicules, cette fois-là pas des X-Wing mais des dragons avec l'armée des méchants et tout ça qui sont aussi sur des dragons. Fait que tu sais, c'est même maudit pattern que Star Wars, puis t'as absolument raison.
Oui, mais faut pas oublier non plus que Star Wars s'est inspiré de la mythologie et à l'aide de Joseph Campbell, qui est un mythologue très réputé. George Lucas a écrit son scénario, entre autres, en se basant sur le livre de Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, l'homme aux mille visages. Et depuis, c'est sûr que Star Wars est une adaptation moderne de paquet de mythes mis ensemble. Disons que ça date pas de Star Wars, mais c'est eux autres qui l'ont entre autres popularisé le plus là, l'aspect pas l'aspect mythologique mais le comment dire le cinéma épique.
Non, c'est intéressant ça, c'est très très cool. Ben oui, Lucas était très intéressé à l'histoire de KPDP, Captain Blood aussi, ça parut énormément. On parlait tantôt des c'est ça, un peu de la direction artistique puis la création des décors. Regarde, dans cette fameuse scène là dans l'espèce de palais de rock et de cristal, regarde, c'est flagrant, c'est superbe, c'est superbement beau. Il y a aucun green screen, il y en a quelques-uns, mais c'est pour des
qu'on a vu, c'est quand ils traversent le lac à la rame là.
Oui, exactement.
Il y en a eu un, là.
Tout à fait, mais pour le reste, c'est vraiment comme... Soit c'est des trompe-l'œil, c'est-à-dire des effets de caméra, ou soit c'est du matte painting, mais au moins, tu sais, tu sens pas l'artificiel là-dedans. Quand ils poussent des gros murs en styromousse, de la roche, quelque chose de genre, tu le sens. Tu sens vraiment que t'es dans cet univers-là et que t'es pas abusé en tant que spectateur avec des effets visuels. Au moins, il y avait ça. C'est une des belles qualités du film, ça, que je trouve très, très beau là-dedans.
C'est vrai que l'histoire rend les personnages crédibles, le jeu des personnages aussi. Là. À part, je trouve que le design du Wizard, c'est pour ça que je l'ai spoté tantôt. Oui. Je trouve qu'il laisse à désirer, mais il aurait pu être mieux. Malgré qu'il y a tellement de personnages aussi dans le film, des personnages qui ont rapport à l'histoire, qui ont rapport directement à l'histoire. Là, je parle pas de la populace là, des villages ou quoi que ce soit, mais des ceux qui ont vraiment un rapport direct avec la narration. Ben, celui-là, je trouve, c'est celui qui est le moins réussi, mais on va voir quand il va se transformer en monstre. Je trouve que son monstre, il est cool, il est vraiment...
C'est ça, c'est vraiment le personnage le moins développé, parce que là, son but, c'est ça, c'est de pas faire, se protéger le cristal et faire en sorte que qu'il ne fasse pas voler. Mais ce qui est ridicule, c'est qu'il s'en va kidnapper, puis il l'amène dans son château de phare, la seule personne qui peut prendre le cristal. Fait que tu sais, pas un peu dans le pied, à quelque part.
Ouais. C'est vrai que c'est un peu weird.
Moi, ce que je trouve très drôle, au moins, c'est...
Pourquoi pas l'avoir tué tout de suite?
C'est ça, exactement. C'est ça. Mais le film durait 20
minutes.
Ça
nourrit l'aventure. Là,
le film durait 20 minutes. Au moins, ça donne une raison à nos héros d'aller dans cet endroit hostile. Moi, ce que j'aime là-dedans, moi, c'est une de mes scènes préférées dans ce film-là. Puis en plus, la musique de l'affrontement quand le sorcier se transforme en...
genre de ghoul.
C'est ça, en genre de créature, mais... tout ça, qui combat Conan. Genre, je l'avais utilisé dans notre fameux L'homme qui voulait être Arnold.
Ah, puis pour faire une autre anecdote cinématographique, oui. On pourrait dire que le combat ici, contre le wizard, que en fait sont pour situer le monde là, ben les gens qui nous écoutent quoi que ce soit, ben dans le fond c'est tout un paquet de miroirs, ben on pourrait dire des miroirs, mais c'est comme de la glace qui cache que chacun derrière chaque plaque il y a l'image du wizard, du magicien, excusez mes termes anglophones, du magicien avec la cape, et on pourrait dire que c'est une anecdote ou une référence à The Lady from Shanghai de Orson Welles, avec ben on dirait bien, je sais pas si t'as déjà vu le film The Lady from Shanghai.
Il manque à ma culture, mais dites-le pas trop fort et on va déliter cette portion du podcast.
Oui, bon.
Ah oui, ben petit trêve, surtout qu'il est amusant, le fameux sorcier Totamon. Lorsqu'il se transforme en monstre, c'est le même acteur. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça que lorsqu'on le voit, il est entouré d'une cape rouge et puis il monte pas son corps, il monte pas sa musculature. J'imagine que c'est simplement pour garder la surprise à la fin, que c'est vraiment sa propre musculature, que c'est vraiment une grosse bête, parce que vraiment, là, on va le voir, il soulève son capuchon sous la cape et ça va être une grosse tête de monstre. Puis avec un corps de gros lutteur.
En gros plan, il est moins réussi, mais dans l'action, ah oui.
Ouais,
dans l'action, c'est correct.
Et là, il y a un combat de lutte à digne de la WWF à l'époque qui s'en va.
C'est vrai, je me suis dit ça hier quand je l'ai réécouté. Je me suis dit que les prises là avec les genres de soulever là, les...
Oui, il y a des souplesses arrière, il y a des prises de soumission. C'est hallucinant, mais je l'adore, cette scène-là, elle est super cheesy, mais écoute, puis Arnold,
il peut continuer à grogner comme dans les premières batailles de
c'est exactement ça que j'allais dire, il y a une succession de c'est juste magnifique. Mais hey, c'est une pièce d'homme, ça, cette créature-là, le gars qui est en dessous de ça, parce que sérieux, il est plus grand qu'Arnold, puis une musculature pas comparable, parce qu'Arnold le clenche à plate couture, mais c'est un pan de mur, ça aussi.
Là, on voit qu'Arnold a quand même été celui qui a fait ses propres cascades.
Oui, là, on a ma passe préférée, la roulade, où est-ce que le monstre le prend par les pieds et le fait spinner à une vitesse un peu beaucoup inférieure à la moyenne, mais c'est pas grave.
Il n'y a pas eu trop d'accidents. Ouais, vas-y, excuse.
Ah non, j'allais juste dire côté technique, là. Écoute, ça doit sûrement être un cauchemar pour une équipe technique, pour un caméraman, de tourner dans un endroit où il y a plein de miroirs et tout ça. J'excuse, mais ça a dû être extrêmement méticuleux comme découpage technique à faire pour faire en sorte que le cadrage, tu vois aucun, tu vois pas de membre du staff ou n'importe quoi. Là. C'est quand même un bel accomplissement, ça.
C'est vrai. Tu as bien raison. J'allais dire quelque chose. Alors, on voit bien que...
Oh, on a trouvé Conan, la faiblesse du monstre qui semblait être invisible maintenant. On dirait que c'est sa force, bien voilà, ça découle de l'unité des miroirs. Et là, Conan se met à briser chacun des miroirs. Et il y a des cicatrices et des entailles qui apparaissent sur le corps du monstre.
Un
pour
peu
la
comme les bonhommes de He-Man, là, quand on était jeunes. Là, c'est quand il recevait un coup, He-Man, là, il y avait un truc qui pivotait dans le milieu de son chest, puis ça faisait des cicatrices. Ouais, ouais, ouais.
Moi, j'avais plein de... J'avais plein de figurines comme ça que tu pouvais remplacer un peu des membres ou des portions du devant. Je sais pas pourquoi, c'était toujours des dommages, des trucs comme ça, des blessures. Là, je me souviens, j'en avais un de Robocop, puis tu remplaçais le chest par quelque chose de tout pété, puis le casque par un truc, quelque chose de tout
cabossé,
pété. Cabossé, ouvert, fendu. Ouais. Même les figurines de Ghostbusters, il y en avait certaines que tu trempais dans l'eau pendant 2 minutes, puis il y avait comme du slime, puis des déchirures qui apparaissaient.
Oui,
qui
étaient translucides ou quelque chose. C'était certains monstres là, qui étaient translucides. Là, ça...
Non, c'était cool. On n'en fait pas des figurines comme ça. Moi, je me trompe, sur un temps que j'en ai pas acheté, mais il me semble que ce procédé-là se voit plus. Là.
Les figurines, là, c'est le monde des super-héros. Hein. C'est vraiment, il y a juste des super-héros. Ben, bon, je sais pas vraiment.
Puis des G.I. Joe, sûrement.
Ah ouais, ben, ça va avec l'ère du temps. Ce qui est populaire au cinéma, moi, dans mon temps, c'était les bonhommes de Star Wars et les G.I. Joe et les Transformers. Ben, en fait, ça n'a jamais changé depuis 30 ans.
Non, c'est encore la même chose. Regarde, j'ai encore mes vieilles figurines des Ninja Turtles et je suis passé dans un Toys R Us récemment. Puis il y a encore des Ninja Turtles partout, des Ghostbusters partout, des Pooliches partout. G.I. Joe, encore une fois, autant au cinéma que dans les jeux vidéo que à la télé puis dans la figurine, c'est encore présent. Ouais. C'est fou à quel point tout est circulaire puis qu'on évolue.
Exactement. Moi, je trouve ça, en tout cas. Dans les années 80, on tentait plus, on donnait des chances à des productions comme peut-être comme Conan. Là, c'est sûr qu'avec Arnold qui devenait populaire, là, ça dépend de la vedette, mais c'est très répétitif. Les remakes et tout dont le remake de Conan, pas vu, mais qui apparemment est un navet.
Tu peux t'en passer, honnêtement. Je me suis endormi deux fois dessus au cinéma, qui n'était pas évident. Et malheureusement, ça n'apporte absolument rien au canon de Conan, ne serait-ce que pour faire de l'argent ou n'importe quoi, pour exploiter une franchise qui a un nom et qui est connue du public. Mais tu n'es pas obligé de la voir. Ou attends que ça passe à TQS au cinéma de fin de soirée, puis c'est là où je te donne la permission de le regarder. sinon, ça n'apporte rien. Fait qu'écoutez, à la maison, si vous ne l'avez pas vu comme Marc-André, vous avez vu les deux premiers opus avec Schwarzy, écoutez, gardez... Vous pouvez en rester là, puis on va être bien content, vous aurez absolument rien manqué. Alors là, pour nous situer, le monstre a été défait, les miroirs brisés, et là, Conan, pour briser son miroir, le dernier miroir a lancé son épée, ça a brisé un miroir, et c'est allé se planter, l'épée est allée se planter dans le ventre du sorcier qui se cachait dans le dernier miroir.
Bon terme. Et là, il est en train de quasiment d'exploser comme Han Solo qui libère de la carbonite. Là.
Ouais, c'est vrai ça, exactement. Il y avait toujours... à chaque fois qu'un vilain mourait dans les années 80, c'était toujours dans des effets visuels, dans une espèce d'avalanche de fumée.
Il tentait des choses,
de lumière, là.
T'sais.
Ah, c'est très drôle. Alors là, voilà, le vilain est battu. La jeune Jenna vient de se réveiller de son sommeil.
Et on voit les talents d'acteur de Will Chamberlain là, qui regarde à gauche, à droite et
qui magiquement a perdu, est comme torse nu maintenant, il a comme perdu.
Ah, il a enlevé, ben non, ben c'est quand ils ont sauté dans l'eau, il a enlevé sa tunique. Attention, qu'est-ce qu'on révèle? Le sorcier est devenu du verre cassé. Alors c'est comme si, là on va voir là, qu'il va falloir qu'il se dépêche à s'en aller du château parce que, mais le sorcier étant mort, peut-être que le château était entouré d'un sortilège quelconque. Là, il faisait qu'un avec sa demeure. Enfin, là, la demeure, elle va commencer là.
C'est le traditionnel autodestruction de la base ennemie, c'est certain, après que ce soit des faits. Effectivement, ça s'en vient dans peu de temps. Mais moi, je reviens sur la jeune actrice qui fait Jenna, qui était une jeune...
Fort jolie, et je trouve que son jeu et les dialogues sont très bons par rapport à Sarah quelque chose.
Ben, en fait, mieux que ça, c'est elle s'appelle Olivia Dabo. C'est en tout cas une très belle actrice, ça, qui a beaucoup joué dans les années 80 et 90. Et qui est, pour encore faire une référence à James Bond, qui est la cousine d'une des plus belles James Bond girls que j'ai vues de ma vie et qui hante mes rêves depuis bien longtemps. C'est-à-dire, elle jouait dans The Living Daylights. C'était une actrice qui s'appelait Myriam Dabo, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa jeune cousine de Conan, de Destroyer, et ces deux filles-là sont magnifiques, elles se ressemblent énormément et voilà.
Oui, ça en a un autre qui fait travailler qui faisait travailler le jeune Sébastien visionnement, parce qu'elle était effectivement bien sexy, pas de brassière, et on la voit souvent qui a le tente avec sa poitrine qui se soulève.
Oui,
et
il y a des petits mordillages de lèvres quand on voit Conan faire des efforts, quand on regarde sa musculature, ou elle a des conversations sur
qu'est-ce qu'un homme, voilà.
Comment on peut le séduire et qu'est-ce qui se passe quand on séduit un homme.
Il y a toute une interrogation là-dessus, cette jeune fille.
Ah oui, en pleine
éveil sexuel.
Éveil, tout à fait, éveil de la vie et tout ça, donc...
Là, bon, on a le décor en stucco, là.
C'est vrai, les morceaux de styromousse commencent à se défaire parce que Marc-André, t'avais raison, c'est en fait le château et le vilain ne faisait qu'un. Alors là, sa demeure commence à se détruire morceau par morceau. Alors notre équipe de Joey Luron embarque dans le radeau et quitte ces lieux maudits.
Oui, ils ont réussi à ouvrir la porte qui était barrée initialement, mais là, c'est ça.
Puis ils ont ce qu'ils cherchaient, parce que là, ils ont été chercher le fameux cristal qui va donner accès à la salle de la corne. Donc, écoute, d'une pierre deux coups, tu vas chercher la jeune fille et tu vas récupérer ce dont tu as besoin. Passons à l'acte 2 maintenant du scénario. Très drôle. Et voilà le retour du fameux green screen.
Oui, c'est ça que j'allais dire aussi, le green screen.
Mais on pouvait pas, même dans les années 80, on pouvait pas ne pas y faire référence, c'est bien certain.
Écoute, tous les films utilisaient un green screen, je pense bien, pas tout, là, mais toutes les grandes, les grosses productions.
Ben, à effet visuel et tout ça, sans prenait ça.
Les films de science-fiction, aventure et autres.
Mais celui-là, effectivement, Conan Destroyer, tu t'attendrais à voir ça plus souvent, mais non, ils ont vraiment mis l'emphase sur les décors naturels et tout ça, et artificiels dans les studios, mais au moins, c'est pas une avalanche de green screen qu'on a pu voir dans d'autres films de fantasy, où est-ce qu'à chaque fois que tu vois les plans, ça te fait décrocher en tant que spectateur, tout ça. Donc au moins, ça a encore ça a beaucoup de valeur ajoutée.
Il n'y a pas trop de créatures aussi, des créatures fantastiques dans ce film-là, à part les gros monstres, là, mais... sont assez humanoïdes, ce qui empêche de faire justement comme les gros oiseaux, mettons, les gros oiseaux
comme dans
inventés.
Les films de Sinbad, c'est ça,
ben,
les cyclopes,
à l'histoire
les dragons,
sans
là.
Fin, puis tous les genres de créatures inventées pour le film qui... Mais celui-là, il y a beaucoup de soldats, dont, entre autres, le valeureux ami de Arnold Schwarzenegger.
Sven.
Oui,
Sven Ole Thorsen. C'est ça que j'allais dire, tu lis dans mes pensées. Là, la caravane est prise, se fait attaquer par des soldats qui ressemblent étrangement à ceux de la reine Taramis. Alors, il va y avoir affrontement, et là, Conan va affronter un des soldats, en fait, le général de cette garde-là, j'imagine, qui est joué par, c'est ça, son l'ami de Schwarzenegger dans la vraie vie, qui s'appelle Sven Ole Thorsen, un Norvégien, qui lui aussi était un bodybuilder, si je ne m'abuse. Oui. Oui. Puis là, ils sont tellement amis que dans plusieurs des films de Schwarzenegger qu'il a fait dans les années 80 et 90, Schwarzenegger a insisté pour y donner un petit caméo, un petit mini-rôle à son ami. Alors,
on parle de Running Man, entre autres. Oui. Et on parle de... les Conan, les Running Man.
Ole Thorsen, il est aussi dans le premier, si je ne m'abuse aussi.
Oui, ben oui, il fait un des deux hommes de main... Un des deux hommes de main
de Tulsado. C'est vrai, c'est celui qui se fait empaler à la fin.
Oui, voilà. Puis là, ben dans le Destroyer, on a pris bien soin de masquer sa bouche. On voit juste ses yeux puis son nez pour pas que ça fasse erreur de continuité. Le
personnage a survécu ou quelque chose
de l'aventure, c'est ça. En fait, il y a une barbe, là, ce qu'on voit, donc ça aurait pu... une simple barbe, là, un peu comme les lunettes de Clark Kent, là, aurait pu masquer son identité facilement.
Alors, c'est sympathique, ça. Au moins, Schwarzy, il a toujours eu du fun avec ses amis, puis c'est toujours...
Puis en plus, en tant que combat, des combats d'épée où Schwarzenegger veut absolument faire ses propres cascades, ben, peut-être jouer contre un ami, il connaît peut-être des chorégraphies, on fait des chorégraphies dans le passé ensemble, donc ça évite de faire des blessures, possibilité de blessures ou quoi que ce soit.
Ah oui, là, attention, c'est l'affrontement encore une fois entre les deux, puis là, attends, là, tu sais, pour utiliser un terme anglais, là, shit got real, quand Schwarzenegger commence à faire des katas d'épée en bandant les muscles, là, tu sais
que... contre-plongée.
Ah oui, le fameux hero shot, comme on dit en anglais, ah oui, ça, c'est certain avec des... battons-nous avec nos épées ridicules.
Ben, il en faut un peu de bataille parce que, même si ça n'a pas bien paru, parce que le scénario est quand même, avec les touches humoristiques dans le film, il n'y a pas eu tant de batailles que ça. Tandis que dans Conan the Barbarian, il y avait plusieurs batailles depuis, dès le début, là, ben du carnage. Mais dans celui-là, il n'y a pas eu tant que ça, là. On a eu le wizard, là, le sorcier, la bataille du début.
Ben, c'est un peu,
celle-là, ouais. Puis c'est à peu près tout. Là, on était à une heure et quelques, là, peut-être déjà.
On était à 51 minutes. Là.
Bon, on approche une heure, il y a juste eu trois batailles. Ça veut dire que le jeu puis les dialogues sont assez intéressants pour maintenir l'histoire puis maintenir le spectateur en alerte.
C'est la qualité de ce film-là. Moi, je trouve que contrairement à... Alors que ce n'est pas encore mon point de vue personnel, contrairement à Conan de Barbarian, tout avance vite. On est déjà à 51 minutes. Puis écoute, tu as vu du combat, ouais. Les personnages sont bien établis. On a déjà eu de l'aventure en masse et Dieu sait qu'il en reste encore beaucoup pendant à peu près quoi une quarantaine de minutes par la suite. Puis c'est ça, moi je suis diverti à ce moment-là, je ne m'ennuie pas, c'est ça qui est bien.
Effectivement, tu as bien raison, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de longueur, mais tu te parlais de longueur dans Conan the Destroyer, de Conan the Barbarian. Oui, je peux comprendre qu'il y avait peut-être quelques longueurs, mais avec la narration, c'est quasiment un personnage muet dans le premier. Là.
Tout à fait.
C'est sûr que ça, c'est le visuel, tu as juste le visuel, tu n'as pas trop de... du monde, puis là, on va avoir, on a toute la compagnie qui ont décidé de se faire un petit feu de camp pour se reposer.
Oui.
Et Conan en profite pour lever le coude un peu. Là.
Effectivement, le drink de la victoire, la récombière ou la récon-alcool, après avoir combattu, pas une fois, mais deux fois dans la même journée, avoir mis ça. Et c'est ça, les autres équipiers en profitent pour guérir leurs blessures, oui. Et tout ça. Mais c'est donc, c'est ça, cette scène-là est tellement en contradiction avec ce qu'on vient de dire il y a 30 secondes, parce que je trouve que c'est la pire scène du film.
Elle est longue.
Il y a du slapstick avec Conan qui est un peu sous, qui essaie de montrer à la jeune fille comment se battre. Il y a du petit flirt entre Grace Jones et Malak, excuse-moi, ouais. Parce qu'il y a des petites caresses intimes qui se font. Et ça dure, quoi, 7 minutes, cette scène-là? Puis, j'ai bien de la misère à ne pas faire fast-forward tout de suite. Mais on va y aller, on est des bons guerriers, puis on va l'écouter. Mais moi, ça m'amène à te parler un peu... c'est ça qui est le fun. En fait, à ta souvenance, les romans de Robert E. Howard, de Conan, c'est dans quelle année que ça a été? Dans les années quoi que
dans
ça a
les
été,
années 30. Fait? Mais en fait, il n'y a pas eu de roman. Il y a eu un roman qui, je pense, c'est The Eye of the Dragon, si je me souviens bien, qui est le seul roman en termes de longueur d'histoire qui est environ, on dirait, on peut appeler un roman à partir de 150 pages.
Okay,
peut-être.
Ben plus
là.
Des nouvelles dans ce cas-là.
Mais la plupart de Robert E. Howard a plutôt écrit un paquet de nouvelles parce que c'était les nouvelles qui étaient populaires pour les auteurs à vendre pour les magazines pulp, les pulp magazines. C'était seulement que des nouvelles vraiment qui étaient publiées, qui étaient populaires. Donc, alors, excuse-moi, ta question, c'était...
Ben, c'est ça, c'était juste savoir quand est-ce que ça a été publié, parce que moi, ce qui me fait capoter là-dedans, c'est que ça date d'il y a très longtemps, ça a passé par plusieurs médiums, mais encore en 2014, le personnage de Conan est encore présent, la franchise, le nom,
Marvel,
et l'intérêt est toujours là, via les bandes dessinées, via effectivement les suites ou remakes auxquels on a eu droit il y a quelques années déjà, via les jeux vidéo aussi, il y a un
recueil de nouvelles.
C'est ça, il y a un MMORPG qui est sorti il y a quelques années, c'était... en fait, il y a un jeu en tant que tel qui s'appelait Red Nail, puis qui n'a pas très bien rentré, mais...
Il y avait un MMORPG de
Conan.
The Age of Conan,
si je ne m'abuse aussi. Par la suite, on continue encore. Écoute, même depuis que Schwarzenegger a fait son retour, écoute, là, il est en train de tourner un nouveau film de Terminator, et on suppose que son nouveau, ça va être le très attendu de... King Conan, Crown of Iron. Qui est en chantier depuis des années, mais Schwarzenegger, c'est ça, dit, en fait, qui veut bien l'entendre, qu'après Terminator, c'est un retour à Conan, que le scénario est incroyable, qu'il se remet en chef. Et...
Ben, j'ai regardé les special features avant de me taper le film avec ma blonde hier, puis le réalisateur, ou en tout cas, je me souviens plus, le producteur, en fait, disait que quand ils ont proposé l'histoire à quand ils ont proposé l'histoire à Arnold, ça a pris quand même, je pense, apparemment 5 ans avant que Conan the Barbarian se fasse donner le OK. Le problème de scénario, justement, un petit peu trop difficile à tourner, le scénario d'Oliver Stone. Donc, c'est pour ça que John Milius est arrivé, parce que Oliver Stone voulait réaliser son scénario, qui devait être son premier film son premier vrai film hollywoodien. Et finalement, ils ont décidé de jouer safe et d'aller chercher John Milius, avec qui ils pouvaient peut-être mieux travailler. Ils ont réadapté, ils ont réécrit un peu, je pense, le scénario d'Oliver Stone, mais ça l'a fait en sorte que ça a pris quelques années, un bon 5 ans, je pense, avant que ça soit fait.
T'es encore faire nos parallèles à Star Wars. John Milius, qui est un des trois fondateurs d'American Zoetrope, avec Francis Ford Coppola et George Lucas.
Mm-hmm. Alors... Et puis, pour répondre à ta question que j'ai jamais répondu, les nouvelles de Robert E. Howard ont paru dans Weird Tales dans les années, si je me souviens bien, à partir de 1928 jusqu'à 1932, jusqu'à la mort de Robert E. Howard. Mais par la suite, on disait que le personnage n'est pas mort à cause d'un gros fanbase du domaine de la science-fiction et de la fantasy, et entre autres grâce à un certain monsieur L. Sprague de Camp, qui a été le technicien, le technical advisor des films pour un consultant en fait, pour savoir si la version de Conan qu'il faisait épousait bien la version de Howard, à cause justement du fanbase qui était le premier public cible des films. Ben, c'est sûr qu'il voulait satisfaire pour pas qu'il y ait trop de grognements. Donc ce monsieur-là a réussi à garder les nouvelles de Conan et les faire publier dans des recueils, et il a aussi complété plusieurs nouvelles incomplètes de Robert E. Howard qu'il a laissé incomplètes à sa mort. Donc Lynn Carter et L. Sprague de Camp ont été les deux écrivains, si on peut dire, là, les deux héritiers testamentaires de l'héritage littéraire de Howard.
C'est quand même majeur comme contribution. Hey, moi, il faut que je te rentre aussi dans les petites anecdotes de fafan de cinéma.
Oui.
Tu sais que après True Lies, que Schwarzenegger a fait en 95, le film qui était le prochain film qu'il était censé faire, c'était Conan 3. Donc, le scénario était prêt, tout ça, mais Schwarzenegger a détesté le scénario. Il disait, c'est pas ça, ça marche pas. Avec l'énorme influence qu'il avait, a demandé des changements de réalisateur, a demandé du recasting, a demandé des changements au scénario. Et bon, après tout ça, il y a une grosse équipe qui a travaillé là-dessus, mais Schwarzenegger était pas satisfait, alors a quitté le navire. Alors, les producteurs de tout ça, les réalisateurs et les scénaristes, en voyant qu'ils ont quand même un produit décent, ont décidé d'y aller quand même et de modifier le titre et de prendre un autre personnage de Robert E. Howard, c'est-à-dire Kull le Conquérant.
Oui, Kull.
Donc, Kull...
J'essaie de me souvenir des autres créations les plus populaires de Robert E. Howard, à part Conan, Kull le Conqueror.
Call the Conqueror. Oui. Alors, le scénario de Conan 3 est devenu ce qui est sorti en 97, Call the Conqueror, avec Kevin Sorbo, notre Hercule préféré, qui joue là-dedans. Alors, les amis à la maison, si vous voulez avoir un aperçu de ce qu'aurait pu être Conan 3, c'est regarder Call the Conqueror, c'est exactement ça qui devait se passer, mais avec Schwarzenegger à la place de Kevin Sorbo.
Ah, ben c'est là qu'on voit qu'on peut tout simplement prendre le nom Conan dans un scénario, le remplacer par Call the Conqueror. Il faut dire que c'est ça, la dark fantasy. Il y a une formule de la littérature de genre, en fait, qu'on peut altérer ou qu'on peut modifier, mais ça devient souvent c'est pas toujours les mêmes aventures, mais il y a quand même une formule qu'on peut utiliser, là. Puis ben là, tu vois, tu viens de prouver.
Oui, ben en fait, c'est exactement la même affaire que tu racontais tantôt avec ton Red Sonja, c'est-à-dire comment faire un film en changeant juste une lettre au nom du personnage et tout ça. Oui,
exactement.
Tout ça, parfois, ça peut être pervers comme résultat sur l'écran. Hey, c'est-tu quoi, j'ai une bonne nouvelle. Notre fameuse scène inutile et longue, elle est terminée.
Oui, mais il y en a un autre ici qui est longue, mais qui est très drôle. C'est l'interrogation de la jeune fille sur qu'est-ce qu'un homme. Et là, elle va voir chacun des... Elle commence par Bumbata, elle lui demande si Conan est handsome, s'il est un beau gaillard. Et là, Bumbata est un peu perplexe. Mais là, elle lui dit, ben oui, parce que j'ai juste vu toi dans ma vie en tant qu'homme. En fait, c'est faux, il y a un paquet de gardes aussi, puis de soldats de la reine Taramis.
Tiramisu, c'est des...
Et là, finalement, elle va voir Grace Jones, puis lui demande, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu voudrais avoir un homme, s'il y a un homme qui tombe dans l'œil, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, Grace Jones, elle dit, moi, I would take him. elle le prendrait, elle le posséderait lui-même. Puis après ça, elle va voir Malak, puis elle lui demande comment est-ce que ça se passe entre un homme et une femme. Puis là, Malak est très, très mal à l'aise, puis il répond par courte réponse. C'est vraiment très drôle. Alors, il essaie de parler à une jeune adolescente de débat sexuel, puis c'est, en tout cas, faut voir le film, entre autres. Moi, je le vois souvent en anglais, alors c'est très drôle.
Ah, ça donne un heureux moment de personnage. Moi, je suis curieux de la réponse qu'aurait eu notre sorcier Akira.
Oui,
ça aurait pu
posé,
être très drôle. C'est peut-être lui qui aurait juste dit « un homme, une femme, c'est un pénis, c'est un vagin, ça rentre dedans, ça fait des enfants.
» Alors là, ils sont en quête d'aller chercher
la
corne.
C'est la deuxième partie maintenant du périple, c'est-à-dire maintenant qu'on a le
diamant.
Fait, comme ça, le diamant qui donne accès à la salle de la corne, eh bien, et qui est en possession de la jeune vierge, eh bien, voilà, c'est le moment de rentrer dans le repère de la corne et d'aller la subtiliser en tant que bon voleur qu'est Conan. Parce qu'au départ, c'est ça, surtout
oui,
cinéma,
oui, je voulais dire ça tantôt. Mais excuse, vas-y, mais
j'ai quelque chose à dire. J'attendais que tu complètes, mais c'est ça, au départ, Conan, du moins dans ce que j'ai pu lire un petit peu dans les romans, bah, pas dans le roman, mais dans les petits recueils de nouvelles, puis dans les films, Conan, c'est non seulement un guerrier, un barbare, mais au départ, il s'est plus trouvé une vocation de voleur aussi, de grand chemin, aller subtiliser quand les gens s'y attendent pas, rentrer dans les châteaux, subtiliser des richesses et tout ça. D'ailleurs, qui fait très bien avec Malak aussi, c'est ça le but.
Oui, ce qui est particulier à Conan, c'est que si on prend, moi, les premières nouvelles de Robert E. Howard que j'ai lues avec Conan, c'était les fameuses éditions J'ai lu, avec les qu'on trouve partout dans les librairies usagées. Entre autres, il y avait Conan le barbare, il y avait Conan le flibustier, Conan le guerrier, Conan, et là, on mettait toutes les épithètes possibles.
Conan,
et en
bibliothécaire.
Fait, oui, ben oui, la blague de UHF avec Weird Al Yankovic. Mais en fait, ce qui est particulier à Conan, puis c'est assez intéressant quand on lit ses nouvelles, c'est que Conan, c'est un homme à tout faire, là. Il est tour à tour pirate, voleur, roi, esclave, mercenaire. Il fait tout, il voyage partout, puis jamais satisfait de rester à la même place. Conan, il prend un paquet de jobs, un peu comme les Three Stooges. Pour ceux qui connaissent les Three Stooges, qui ont tout le temps un paquet de jobs partout, qui essayent de se trouver une place dans le monde, là, ben Conan, lui, il fait la même affaire.
Excellent.
Mais dans un univers dark, dans un univers de dark fantasy.
Pour notre plus grand plaisir. Ah oui, j'avais une autre petite anecdote stupide avec Conan, le barbare amené. Il y a 2 ans, je suis allé faire un petit tour à Chicago pour regarder principalement du baseball. Là, j'arrête dans un restaurant sur une petite rue en travers des autres. Et c'est un restaurant comme un peu l'équivalent cheap d'un Planet Hollywood. Tu sais, il y a des reconstitutions de costumes ou des trucs comme ça. Puis tu regardes le menu, puis le menu, c'est comme des... t'as le nom de la bouffe, mais tu sais, il y a toujours une petite tournure qui ressemble à un nom de film. Alors, il y en avait un, c'était Conan the Tartarian. C'était vraiment un tartare de poisson. C'était très amusant. Conan le tartare. Moi, je l'avais trouvé très, très bien drôle. Mais il était succulent, c'est ça qui était bien.
C'est ça que t'avais acheté.
Oui, tout à fait. Le nom m'avait séduit. Alors, juste avant une game des Cubs, c'est très, très bon. Un bon vieux tartare.
Les Cubs qui perdent tout le temps, habituellement.
Ils ont gagné ce soir-là un circuit chanceux en 9e d'Alfonso Soriano à l'époque, qui est déjà plus là, mais effectivement, est-ce qu'on lancerait nos conversations?
Oui, Sébastien
de
est un grand fan de baseball. Alors,
fait,
pour lui faire plaisir, une petite joute de baseball, puis tout réjouir.
Moi, je suis heureux pendant les 10 prochaines années après ça. Il n'y a pas de problème là-dedans. Ça, c'est une de mes scènes préférées, ça, que j'adore. Alors là, ils sont profondément dans le château qui détient la corne et tout ça. Donc, ils ne trouvent pas d'opposition. Ils semblent approcher vers de leur but, vers une chambre secrète. Et là, se trouve devant eux autres une porte en acier, fer, trempé, massif. Écoutez, tout ce qui est plus massif. Alors là, Conan et Bombata vont tenter de la soulever. Et moi, j'adore ça, honnêtement. Une grosse... porte en styromousse, ta voix shakée, puis tout ça, puis c'est le moment du fameux petit mordillement de lèvres de la jeune princesse qui est étrangement
animée.
Ça dure tellement longtemps, cette scène-là, juste pour montrer la belle musculature de ces deux gars-là, puis d'ailleurs, c'était tellement une image récurrente dans les films de Schwarzy à l'époque, tu sais, tu l'avais...
Faut qu'on monte Arnold
dans
flexé.
Un début, dans une épreuve physique, du moins, c'est flagrant.
Le commando, le fameux bio de bois, le tronc d'arbre sur l'épaule.
Quand il pousse la voiture en bas de...
De la falaise.
Ouais, ça prenait ça, c'était comme une marque de commerce du film de Schwarzy.
Red Heat, quand il arrive dans le sauna, puis il prend une roche de sauna brûlante, puis il se met ça dans la main pour lui montrer qu'il n'a pas peur, puis qu'il n'a pas mal.
Puis en plus, pour mettre l'insulte à l'injure, il est comme en petit string aussi durant ce...
Il est en serviette, en fait. Après ça, il se bat tout nu quand il sort à travers la... Avec le gars qui manque une jambe, là.
Exactement. C'est probablement des suites de Conan the Destroyer. Arnold se trouvait trop habillé dans cette séquence-là. Alors, fait comme, je veux être nu dans la neige.
Puis, je dirais pas une faiblesse de l'histoire, oui. Mais là, on est rendu à la deuxième partie de la quête, mais dans les dialogues et tout ça, si je me souviens bien, il y a pas d'indication de là, on s'en va faire ça. Là, on s'en va
on
faire
sent
ci.
Pas dedans, ouais, hein.
On sent pas vraiment de direction dans leur quête ou qui va nous informer le spectateur via indirectement via le dialogue ou via le narrateur qu'on entend constamment dans Conan le Barbare, mais dans Conan le Destroyer, le narrateur, il parle au début pour mettre en situation, puis après ça, il clôt le récit avec avec une conclusion. Mais ici, il n'y a pas de narration, puisque le dialogue pourrait révéler les choses, mais ils ne l'ont pas mis là-dedans.
C'est vrai que...
On est un peu fourré.
C'est vrai que beaucoup dans ce film-là, on ne sait pas trop c'est où. On passe du point A au point B, puis comment on a trouvé le nouveau château au point B, quelles sont les indications. Il n'y en a pas. On dirait qu'ils ont vraiment mais c'est pas con. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, on ne peut pas le deviner, mais du point de vue des personnages, ils sont sûrement fait dire par Taramis au début que vous allez là pour chercher le diamant, puis il faut aller là-bas pour trouver la corne. Au moins, j'imagine que les personnages savaient c'était quoi leur itinéraire, mais en tant que spectateur, on le sait pas, on sait pas pourquoi ils vont là.
Tu parles de ça, il y a quelque chose qui me venait à l'idée qui aurait pu être intéressant, un peu comme qu'on a vu avec Indiana Jones quand ils voyagent dans toutes les Indiana Jones, quand ils partent en avion, on voit une genre de map et en genre de fondu, pas enchaîné, mais en genre de
surimpression.
Surimpression, on a la map, puis en arrière, on voit comme le moyen de transport d'Indiana Jones. Mais dans Conan, parce que dans les trucs de Robert E. Howard, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, il y a une map à chaque roman, à chaque recueil de nouvelles, tu as une map avec toutes les régions, Aquilonia, Hyperborea, Cimmeria, toutes plein de régions propres à l'univers de Robert E. Howard. Et il me semble, en Conan, on a plusieurs séquences où il voyage à chevaux sur le dos d'un cheval. Et ça aurait pu être intéressant de savoir, de mettre le narrateur ou quoi que ce soit qui dit ben une indication juste pour situer le spectateur, puis mettre justement en surimpression la compagnie qui ride sur leurs chevaux et une map. Pour
grounder ça plus dans l'univers des mondes créés par Howard.
Ouais, ben oui, ça aurait pu être intéressant, il me semble, de pour le spectateur, puis en même temps de faire un clin d'œil à ce qu'on retrouve dans les romans, là, qu'il y a une map, il y a un univers particulier à Conan, c'est pas juste Conan comme ça, t'as une map, et d'après les aventures de Conan, parce que Robert E. Howard n'a pas écrit d'une façon chronologique les aventures de Conan, alors la première nouvelle qu'il a écrite, c'est peut-être un Conan dans la jeune vingtaine. La deuxième qu'il a écrite, c'est un Conan vieillissant dans la quarantaine, voire la cinquantaine, où les rois. Alors, on saute comme ça là, dans la vie de Conan, mais je me suis perdu dans ce que je voulais dire.
Ah, j'écoutais pas.
Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un paquet... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un paquet de régions. Puis, ça aurait pu être intéressant avec la map là, de situer... par rapport
ouais,
à
savoir où est-ce qu'on s'en va puis pourquoi ouais. Puis c'est ça aurait donné un petit peu, tu sais, on dit du petit geek bonus là, au moins voir au moins voir un genre de lieu où est-ce que Conan a eu une bataille mythique dans un des romans, c'est juste un petit clin d'œil, ça peut être intéressant ça, ou au moins qu'on voit le nom d'une autre région, tu sais, connue par les adeptes de Robert E. Howard puis tout ça, puis des fans des univers qui ont été créés, ça peut être intéressant ça, ouais. Mais tu sais, on était dans les années 80 et ce n'était pas le but, mais peut-être
pourtant, Indiana Jones était dans les années 80, ouais, mais en tout cas
c'est autre chose, une équipe de production complètement différente.
Alors là, on voit la jeune vierge qui traverse le mur de feu, puis elle s'en sort indemne.
C'est vrai,
elle traverse c'est l'élu un peu comme dans l'univers moderne des téléséries, dans Game of Thrones. Là, mm-hmm. La
jeune fille aux cheveux blonds.
Oui, oui.
Puis fait encore...
Qui traverse le feu indemne, c'est ce que je voulais dire.
Oui. Encore ça, c'est un lien avec Schwarzenegger, encore une fois, parce que cette jeune actrice-là a comme été sélectionnée pour jouer Sarah Connor dans le prochain Terminator aussi.
Ah oui.
Réalisé, en fait, avec Schwarzenegger, encore une fois, mais réalisé par le réalisateur de Game of Thrones, justement. Là,
OK, Alan oui, Taylor, oui, oui.
Que, non, encore 6 degrés de séparation.
C'est une bonne actrice. Moi, elle est jolie, mais tu sais, je veux dire, c'est une femme forte, une femme déterminée. Dans Game of Thrones, là, entre autres, cette actrice-là, là, je me souviens pas de son prénom. Je veux dire son nom, mais.
Dans la vraie vie?
Oui, c'est ça.
Emilia Clarke.
Ah, voilà.
Puis là, on parlait encore de sexualité. Ben là, la jeune vierge détient un symbole phallique entre ses mains.
Oui, la corne.
La corne sertie de rubis qui est effectivement très phallique, mais ce n'est pas grave.
Oh oui, Grace Jones ou Zula. Et
ah oui, encore un magnifique regard, plan parce qu'elle est toute féminine et toute belle. C'est fou. Moi, j'ai énormément de respect pour Grace Jones et d'admiration. Tellement belle. Elle a eu...
une bonne carrière, ouais. C'est dans un paquet de domaines différents.
Puis c'est ça, autant au cinéma qu'en modeling, qu'en musique aussi, parce qu'elle est chanteuse temps-là. Puis elle, un de ses hobbies, elle aime chanter en français.
Ah, bon.
Oui, tout à fait. Fait que c'est ça, elle a eu un album sur lequel j'ai trouvé, parce qu'elle a fait toutes ses chansons en français. Puis il paraît que quand elle faisait, elle a donné beaucoup de spectacles en tournée, puis chacun de ses spectacles était comme visuellement complètement incroyable. C'était fou, là.
Ben, c'est sûr, étant la muse d'Andy Warhol, ou anciennement, peut-être qu'elle a dû être inspirée par... l'histoire de l'art ou l'art contemporain ou quoi que ce soit. Mais oui, elle a quand même réussi dans un paquet de domaines, Grace Jones.
Ce qui est amusant, là, c'est peut-être à cause de la façon de se maquiller ou de se coiffer, mais tu prends une photo de Grace Jones, admettons, 1985, et t'en prends une 2014, il n'y a pas une maudite
différence. Oui, c'est ça, elle vieillit pas.
C'est ça, les teintes temporelles, c'est peut-être la première vampire qu'on connaît pas. Là. Mais non, c'est beau à quel point elle a su se conserver. C'est certain que, tu sais, on te regarde de près dans une photo non retouchée, puis c'est un monde différent.
Parce qu'elle doit être quand même dans la soixantaine.
Elle doit être à peu près dans la soixantaine, à peu près dans ces eaux-là environ. Ouais. Mais tout ça pour... c'est très drôle. Alors là, maintenant qu'ils ont la corne, eh bien, vers la sortie...
Sauver avec la corne.
Avant de se sauver avec la corne, plutôt, notre groupe de guerriers tombe sur les protecteurs de la corne, c'est-à-dire une bande de soldats qui sont menés par un autre sorcier qui est probablement le cousin germain de Christopher Lee.
Oui, c'est vrai qu'il lui ressemble
énormément. Alors là, comme vous attendez, il va y avoir confrontation et ça mène à un de mes moments préférés de l'histoire cinématographique de Schwarzenegger. Le sorcier parle beaucoup et il y a affrontement imminent et Conan se tanne, sort sa corne, sa dague, il dit « Enough talk » et là, il y a pitch dans le ventre d'un des soldats qui est à côté du sorcier et c'est juste, ça sort de nulle part, c'est magnifique et ça donne lieu à une excellente séquence.
C'est très Conan, ça.
Enough talking.
Oui. Enough talk. Puis là, ben, on va avoir quand même, parce qu'il faut que chacun des personnages secondaires, quand même, aille leur petit spotlight. Alors là, ça va être le combat de sorciers, là, sorcier contre sorcier.
C'est vrai, ça s'en vient. Enfin, notre Akira va servir à quelque chose.
Ouais, ouais. Autrement que d'être malhabile. Alors ça, c'était dans le 1. Ouais.
Mais moi, tu regarderas ça plus tard, parce que là, et voilà notre fameuse séquence du poignard
j'aime bien la réaction de Grace Jones aussi.
Ah oui, elle se lance
En tant que personnage, là, elle sait quoi faire, là. C'est pas, Conan lui donnera pas d'ordre, là. On voit que le Wizard se cache en arrière, il tarde de participer, qu'il pourrait pitcher des fireballs ou des Magic Missile, ou je sais pas trop
mais
quoi.
Tu remarqueras ça dans certains des combats qui s'amènent d'ici la fin du film. Tu remarqueras à quel point Conan est en compagnie de guerriers qui pourraient chacun prendre une armée à eux seuls. Tu sais, on va exclure le sorcier et Malak. Mais tu remarqueras à quel point des fois Conan se bat en avant-plan et les autres sont comme en arrière, ils savent pas quoi faire, ne l'épaulent pas. C'est très très drôle, honnêtement.
Surtout Bombata, là, qui tient sa genre de massue.
C'est un genre de fléau. Non, c'est pas un fléau d'armes, mais ça, moi, je dirais que
c'est
une
masse d'armes ou...
Ah, puis là, un autre moment où shit got real, parce que Conan fait un
musculature.
Ah, mais il a dû se faire du fun. Parce que sérieux, là, dans les chorégraphies de combat, t'es sans les impacts, ça...
Il n'y a pas de retenue, je pensais ça hier aussi, puis Christy...
Les techniciens, j'espère que les cassadeurs, en tout cas, ils ont pas l'air padés. Ben, ils ont dû
les
sérieusement.
Les Italiens étaient habitués au gore. Là.
C'est ça, exactement. C'est pas comme au soccer. C'est
alors là, la prise de Darth Vader, là, il prend par la main.
Tout à fait.
Il lève par la gorge comme Darth Vader.
Oui, écoute, seul Will Chamberlain peut faire ça. Moi, je trouve qu'il faisait ça à la vraie vie. D'ailleurs, il a fait ça à plusieurs de ses entraîneurs au niveau professionnel aussi. Quand il jouait pas, il prenait, il soulevait.
Il lançait dans le panier.
Et ouais. Ça, c'est bizarre, 3 points avec. Et il allait faire l'amour à sa femme par la suite. Voilà, c'est le moment où Conan est aux prises avec plusieurs guerriers. C'est là le moment où la vraie nature de Bombata ressort, c'est-à-dire il ferme la porte pour commencer tranquillement à se débarrasser de Conan.
Là, il y a un beau truc technique là que je sais pas c'est quoi.
Plan à l'envers.
Un plan renversé où c'est qu'à Conan, on a fait un rewind sur la séquence. Ah oui, et là le Wizard utilise ses gauntlets.
Ses petits bracelets.
Oui, exactement.
Pour faire du bruit avec ça. Par contre, c'est, j'avoue que ça s'étend un peu comme séquence. Ils vont se cacher derrière la bouche de la statue et là, ça va ouvrir, ça va fermer. Ça, ouais. Ça
le combat des wizards, C'est les deux, c'est les deux combats les moins crédibles.
Tu sais, des combats, effectivement, c'est des combats combat de sorciers entre les deux. Tu sais, t'aurais pu donner un meilleur moment plus spectaculaire.
Des concentrations, puis il faut qu'ils fassent de quoi avec leur bouche.
Pour ouvrir, c'est ça, juste, c'est ça. Le combat de sorciers, c'est vraiment ouvrir puis fermer une porte. C'est ça le gros duel dans lequel ils se donnent. Moi, ça aurait été bien de voir quelque chose un peu plus, c'est un peu plus spectaculaire, mais.
Ouais, il est pas très menaçant, mais en tout cas.
Non. Mais c'est pas grave, regarde, j'imagine qu'il était peut-être en remplacement de l'autre vrai sorcier qui était en vacances dans son 2 semaines légales selon la convention du syndicat ou quelque chose du genre. Mais c'est pas grave, il est assez spectaculaire puis il ressemble à Christopher Lee, c'est ça qui est bien.
Puis là, est-ce qu'on peut penser aussi qu'il y a une autre influence Indiana Jones, là, ou c'est que, c'est-tu dans le deuxième Temple of... Non, je me trompe. On laisse faire.
Temple of Doom, ben...
Non, j'allais dire de Last Crusade où c'est qu'il y a les protecteurs de la croix, non, les protecteurs du chevalier.
Oui, du Saint-Graal.
Ouais, du Saint-Graal, exactement. Mais en fait, c'est en 89.
Oui,
le
ce film
Indiana
n'existe
Jones,
pas encore pour
je me suis
les
trompé
pour les,
dans ma, mon
pour
genre
les 5 prochaines années, on n'en aura pas encore. Mais le meilleur était à venir, c'est bien. Tu sais que Schwarzenegger a failli jouer Indiana Jones.
Ah oh, oui.
Oui, ce qui est drôle, c'est il y a, oh, c'est ridicule, là, mais dans les suppléments sur les DVD, il y a comme une section
Jones.
Où est-ce qu'il parle du casting. Et là, on voit une très courte liste en insert et on voit comme Dustin Hoffman, Harrison Ford, Tom Selleck, Schwarzenegger. Et Schwarzenegger est mal écrit. Il y a des fautes d'orthographe dans le nom, mais c'est assez amusant.
Avant qu'il soit connu.
C'est très amusant.
Avant qu'il soit connu dans le domaine cinématographique. Là.
Et voilà notre
ah oui, l'aveuglement, le wizard, le sorcier, il a fait un sort qui a aveuglé l'autre.
Exactement, Akira a gagné. Les
vidé de ses forces.
Et voilà, il a battu l'autre sorcier et ils peuvent déguerpir vers la sortie, mais c'est le moment où les coups de poignard vont se donner et la traîtrise.
Oui, la trahison de Bumbata.
Ouais, pour ressortir une de mes répliques préférées dans l'histoire du cinéma, mais quel est ce son? C'est le son de la traîtrise. Ceux mes amis qui m'écoutent vont le comprendre. Alors voilà, on est
tout. Mais pendant leur échappée, là, je trouve ça un peu bizarre là, que pendant que la jeune vierge qui s'échappe avec Bumbata, un coup que Bumbata veut bloquer le passage, parce que là, il faut dire que notre compagnie est dans un passage souterrain, et là, Bumbata va donner des coups au plafond pour faire un éboulement, créer un impasse là, pour Conan, ou le ralentir du moins. Et là, la jeune, elle a... Ah, c'est vrai qu'elle est déjà sortie.
Oui, elle est
sortie. C'est plausible qu'elle n'ait pas entendu Bumbata en train de détruire le mur, mais là...
Oui, et de voilà, faire un doigt du milieu géant à ses coéquipiers, vu que lui a son propre agenda, c'est-à-dire il est aux ordres de sa reine. Non, tout à fait. Mais maintenant, Conan l'a vu, et maintenant, c'est personnel.
Oui, c'est une guerre à finir. Oui, parce que là, on écoute, il faut dire que... On fait notre commentaire sans la bande-son.
Mais oui.
On n'a pas les dialogues, on n'a pas la musique.
Mais c'est pas grave, on peut se la faire jouer dans notre tête.
Oui,
oui. Tellement regarder ce film-là.
Mais oui. Je trouve ça très dommage que justement la trame musicale a été un peu moins importante.
Mais il y a quand même des beaux moments. Il y a 2-3 passes où est-ce que les Conan et son équipe comme galope et tout ça dans les champs. Il y a de quoi d'intéressant, ça, qui est bien. Mais je t'avoue effectivement qu'elle est beaucoup moins mémorable que celle de l'original aussi.
Parce que chaque trame sonore, chaque pièce de la trame sonore de Conan the Barbarian est assez... j'avoue l'écouter, ou je l'écoutais régulièrement, peut-être moins maintenant, mais je l'ai trop écouté. Là. Mais... C'est une bonne composition par Basile Paludouris.
Paludouris. Qui est décédé il y a quelques années, mais quand même qui a laissé un bel héritage. Il a composé un paquet de... proposer un paquet de films. C'est même lui qui nous a donné, mettons, le fameux thème de Robocop aussi, dans les années 80, et j'en passe, il en a fait énormément. Puis, il a beaucoup travaillé dans les années 80 et 90, ce gars-là. Donc, il a fait vraiment des trucs très, très mémorables.
Et là, on voit notre valeureux Conan là, qui essaie de survivre à l'éboulement.
Dans ses roches de styromousse.
Oui, c'est ça.
Tu vois, il tombe dessus puis il rebondit quelque peu. C'est ça que je trouve très amusant. Mais son équipe est où, là?
Elle est en arrière.
Ils n'ont pas l'air de suivre.
Une torche là, en arrière.
Ou c'est juste le set qui est en feu, ou je sais pas trop, ça dépend. Alors là, la traîtrise est faite. Bumbata, en compagnie de la princesse, qui ont maintenant la corne, peuvent retourner au palais de Taramis et faire revivre de nouveau cette divinité. Alors, Conan, ultimement, décide d'avoir vengeance en compagnie de son équipe et d'aller retrouver...
Parce que là, il vient à ses sens, là, que finalement, c'était une fausse promesse, là, qu'est-ce que la reine Taramis lui a fait.
Mais moi, c'est ça, je me souviens plus si ils le savent déjà ou on l'apprend plus tard, mais il y a comme un fuck-up qui se passe, c'est-à-dire la divinité qu'on l'a venue sur Terre, sa résurrection ne se fera pas très très bien, ça va comme être un échec. Alors, est-ce qu'il retourne au château pour demander vengeance, ou ils retournent au château parce qu'ils sont déjà au courant que ça va chier l'arrivée de cette divinité-là, parce que ça va comme mener à l'enfer sur Terre, et etc. Il faut qu'ils empêchent ça, ou c'est un mélange des deux?
En fait, ce qu'ils veulent empêcher, c'est surtout la mort de la jeune. Le
sacrifice, c'est vrai, t'as raison, oui, parce qu'ils savent
parce
là, qu'elle est sacrifiée.
Parce que ils viennent de sortir du repère là, des protecteurs de la corne, et il y avait le style de une vieille écriture là, des anciens sur les murs qui rappelait au protecteur de la corne la légende là de la jeune fille, la venue prochaine de l'élu qui un jour va venir. Puis là ben le sorcier a pu lire, je sais pas de quelle façon, mais
c'est un sorcier.
Bon, il a pu lire l'écriture, déchiffrer le message, et là il a averti Conan du plan secret là qui est, et là il y a un banc de pain là dans le palais.
Le production value est génial, puis dans quel palais tu peux rentrer à cheval aussi, c'est oui, ça qui est cool. C'est un Christy de beau décor, honnêtement, regarde ça, c'est énorme là, c'est vraiment énorme, puis c'est pas puis encore mon costume préféré de
la reine
Alice, là. Jambes de Sarah Douglas là.
Trompé avec son nom, et là elle montre le phallus.
Le phallus divin.
Oui, c'est ça, le symbole phallique, la corne.
Mais merci d'avoir répondu à mes questions. C'est vrai, j'avais complètement oublié c'était quoi leur motivation à Conan et sa gang de retourner au palais. C'est parce qu'ils auraient juste pu faire fuck off, on s'en va, puis c'est tout, mais...
Surtout sachant que la promesse était brisée, mais Conan et la vengeance, il veut se venger, entre autres, de s'être fait tromper.
C'est un plat qui se mange sanglant.
Puis... le sorcier, lui, il est prêt à aller sauver la jeune fille, mais Conan, dans la même circonstance, là, il va être en mesure de faire les deux.
Bon, c'est vrai. Là. Cette fois-ci, c'est personnel. C'est vrai, ils savent pas encore que la divinité,
ça va être un flop.
Là, c'est vraiment juste pour sauver la jeune fille. C'est vrai, t'as complètement raison. Complètement raison.
Voilà, et là, le peureux, le poltron, le Malak, qui veut pas rentrer au château où la reine Taramis est là, puis là finalement il se dit y a-t-il une autre entrée, puis là Malak s'échappe, puis il dit non, c'est pas la seule entrée, oups, parce que lui il voulait pas y aller, il a peur,
c'est vrai, donc ils doivent passer par en arrière, c'est-à-dire par des chutes d'eau, parce qu'il va donner, ça va donner une super belle séquence de force surhumaine à Schwarzy, où est-ce qu'il va comme bander des barreaux, encore une fois en styromousse, parce que c'est très drôle à mener, avant de commencer à faire son effort, il les accroche puis il les voit bouger un peu.
Ah, ça j'ai pas remarqué, mais on va voir
ça.
C'est
très amusant.
Et là, la fameuse scène du sacrifice, en fait c'est la scène de la célébration, la jeune vierge ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe là, elle pense que le dieu, elle a ramené la corne, le dieu va s'éveiller, puis la vie va être belle.
Elle ne sait pas qu'elle va mourir, finalement. Ben, en fait, non, elle sait. C'est...
Non, elle ne sait pas trop.
Elle ne sait pas qu'elle va être sacrifiée.
Mais non, parce que là, elle va boire un liquide, là, va être endormie, là, peut-être, pour droguée, pour faciliter le tranchage de sa gorge.
Non, c'est toujours très utile. Ça.
Ben, c'est sûr.
On oublie toujours ça, honnêtement, quand on veut tuer quelqu'un.
C'est mieux savoir que tu ne souffriras pas. Tu sais.
C'est ça, tout à fait. C'est par compassion.
Oh, et là, notre fameux Malak qui reçoit une roche en styromousse à la tête.
C'est vrai, c'est parce que la seule entrée cachée dans le château, c'est via des chutes d'eau et tout ça. Là, on commence à notre fameuse scène de sacrifice. Parle-moi un peu de ce que tu voulais me parler au niveau musical.
Oui, et ce qui est, en fait, dans la trame musicale, c'est la chanson qui est intitulée, la chanson utilisée pour l'orgie. Dans le Conan le Barbare aussi, que Conan revient pour tuer Tulsa Doom avec Valeria et Subotai, et là il rentre il s'en va chercher quelque chose, je ne me souviens plus exactement dans Conan le Barbarian, mais c'est là où ce qu'on voit comme l'orgie avec la petite chanson aussi, qu'il mélange la grosse soupe faite de membres humains. Et la même chanson est réutilisée dans la séquence de sacrifice de la jeune fille.
C'est
le
tanana,
tanana, tanana, tanana, tanana, tanana, tanana, tanana, tanana, une super belle chanson, en fait.
Tout à fait.
Puis, c'est même une, comment dire, une, quasiment un thème lascif, là, où c'est que, dans le fond, c'est un peu sexy, là. Et là, c'est la jeune vierge droguée qui va venir porter la corne. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette chanson-là qu'on entend dans la scène de l'orgie, dans le Conan le Barbare, c'est un, la chanson est extra-diégétique, donc c'est rajouté.
C'est un orchestre.
C'est un orchestre, mais fait pour le film. Mais dans la scène du palais, cette même chanson-là est récupérée, mais intra-diégétique. Donc, c'est comme des musiciens de la cour royale qui fait cette petite chanson-là en même temps. C'est une chanson quasiment même hypnotique, là, je pourrais dire.
C'est vrai, parce qu'elle est en loop et tout ça. Oui,
ouais, puis dans le 1, mais dans le Barbare, cette chanson-là, c'est la même qui fait transformer Thulsa Doom en gros serpent géant.
En serpent. Oui, ça, c'est un point que j'aurais aimé voir encore plus exploité dans le premier, c'est-à-dire la fameuse confrontation finale entre Doom et Conan. Il aurait pu prendre cette forme de gros serpent, parce que c'est vrai que dans le premier...
Il a déjà tué un gros serpent.
Mais ça aurait pu être un plus gros serpent encore. C'est ça, cette touche de fantasy-là aurait peut-être pu être un peu mieux exploité, mais bon, c'est pas grave. Je ferai un retour dans le temps, dans les années 80, pour changer
tout
ça.
En fait, moi, j'aime bien la fin, comment ça se termine, parce que la confrontation entre le fils symbolique et le père symbolique, avec le dialogue entre James Earl Jones et Arnold, en fait, Conan et Thulsa Doom, où Thulsa Doom mentionne à Conan, en l'hypnotisant de ses yeux de serpent, il lui dit que qui sait, qu'est-ce qui serait lui, Conan, si ce serait pas pour Thulsa Doom. C'est lui-même qui l'a créé en tuant sa famille. Donc, il a créé son désir de vengeance. Donc, il ne peut qu'exister. Un peu comme Batman n'existe
que
pour tuer Joker.
Exactement.
Ou en tout cas, les deux n'existent que l'un pour l'autre. Mais dans le 1, Conan n'existe que pour tuer Thulsa Doom. Donc, c'est comme son but de vie, là. Parce que c'est une séquence qui me donne des frissons, même en parler. Mais... Mm-hmm. On n'a pas la même sensation épique dans Conan the Destroyer.
Non, c'est ça, il y a pas les mêmes ramifications. Alors, notre équipe de Joyeux Guerriers vient de réussir à pénétrer dans le château de Taramis, et là, Bombata les a repérés, et c'est l'inévitable...
Prend sa pose de frappeur de baseball.
Exactement, frappeur en bidex avec une moyenne de 337 au bâton. Frappant numéro 3. Bombata. Non, c'est une joke. Mais en fait, il jouait plutôt au basket. Mais c'est ça, le combat final entre le combat vengeance, c'est-à-dire revanche entre Bombata et Conan. Et c'est là que je te disais, où est-ce que tous les autres équipiers font juste regarder le show. Ils ne l'aident pas, parce que c'est vrai qu'ils
savent. Ils savent, c'est mano à mano, hein. Homme contre homme.
Je le sais. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mettons que tu fais partie de cette gang-là. Est-ce que tu préfères juste en finir vite, puis faire gagner du temps en sautant en faisant un petit cheap shot, puis en aidant Conan?
C'est
tu
vrai que ça irait
régler
plus vite.
Ça, c'est ça. Parce qu'on a quand même une jeune vierge à sauver.
Là, on n'aurait pas le showdown des deux lutteurs. Oui. Et là, on a le sacrifice de la jeune vierge parce qu'ils ont installé la corne dans le front.
C'est fait maintenant. Et les ténèbres commencent à s'insinuer. Le ciel devient noir. Les étoiles arrivent. Et la statue bouge.
Et là, les indications du sorcier de la reine Taramis lui a dit « Au moindre signe de vie du dieu Dagoth, il faut sacrifier la fille. » Chose qui se fera pas. Et là, c'est là qu'ils vont être dans la marde.
Voilà. Fuck.
Ouais.
Voilà. Et c'est Grace Jones avec sa lance qui va réussir à tuer le sorcier avant que la gorge de la jeune vierge soit coupée. Et voilà. Mais là, la statue, que tout va mal, la statue commence à devenir
immonde. C'est un cauchemar lovecraftien. C'est là que je voulais parler de Lovecraft.
Ouais, vas-y, fort.
Ben, en fait, Lovecraft et Robert E. Howard étaient des correspondants. C'était des chummies, si on peut dire. Les deux s'admiraient mutuellement. Puis, Robert E. Howard a contribué au mythe de Cthulhu, ou l'univers de Cthulhu qui avait été fait par en fait un paquet d'écrivains. C'était toute une communauté, ça, dans le temps de Weird Tales. Un paquet d'écrivains contribuaient, entre autres, à Lovecraft, qui était un peu comme le parrain, le Francis Ford Coppola, si tu veux, de leur clique. Puis, en fait, je trouve que le dieu qui se transforme en bébite, oui, ça répond un peu à des monstres pulp de l'horreur.
Elle a l'air aquatique, cette bébête-là.
Oui,
aussi.
Ben c'est pour ça que moi, je voulais parler de Lovecraft, parce que les dieux de Lovecraft ou les démons de Lovecraft, ce sont souvent des démons aquatiques, Dagon et Cthulhu, là, qui est un genre de gros poulpe géant. Là, on voit que Dagoth, qui ressemble un peu à Dagon. Là,
c'est pas subtil pour deux scènes. Hein?
Ben, je sais pas si c'était une influence de Dagon, ou Dagoth est peut-être vraiment un dieu de la mythologie, je sais peut-être, je sais pas.
Les producteurs n'avaient pas les droits pour utiliser Dagon, fait qu'ils ont rajouté deux lettres.
Ouais, ils ont mis...
Et voilà, cette grosse créature, on la voit enfin.
Oui, qui est transformé en vrai monstre.
Exactement. Et qui va embrocher Taramis de sa corne.
Et, voilà. Et là, on peut voir le thème du vilain qui meurt toujours de ses... par ses
de
propres,
sa création.
Un peu comme les comme tout bon vilain meurt toujours, comme le Joker va se faire des jokes dans ses propres jokes se retournent contre lui, ben là comme un vrai vilain, ben la créature se retourne, celle qu'on était supposé de contrôler,
oui,
se retourne contre son maître.
Tu sais, c'est quoi le but au départ là, d'invoquer une force divine et surhumaine et démoniaque?
C'est de conquérir, ils l'ont dit, to rule, ouais. Comme General Zod.
Puis regarde, j'ai une petite question pour toi. Qui est dans le costume de notre gros dragote en ce moment?
Dis-moi pas que c'est Jean-Claude Van Damme.
Non, mieux que ça encore. C'est
je sais pas.
André le Géant.
Ah
c'est
oui,
notre lutteur là, André le géant ferré là.
Mm-hmm.
Eh bien, c'est lui qui a donné, qui est dans le costume de ce gros Dagoth là. Puis voilà, c'est ça. C'est
son aquatique. Là.
Mais le meilleur était à venir avec la princesse Bouton d'Or, où est-ce qu'au moins il y a un rôle assez important, sympathique.
On parle d'André le géant.
André le géant.
Oui, ça me disait quelque chose, mais alors épreuve de force entre le monstre et Conan. Ouais.
Non, c'est très très bien. Elle est cool cette séquence-là, encore une fois. Ouais. Mais c'est ça, comme je te disais, c'est toute l'autre équipe pourrait intervenir, mais ne fait rien. Regarde, ils sont là.
Ben,
ils
contribuent chacun à leur façon. Là,
raison.
La dague de Malak d'en face qui va aveugler.
Puis Grace Jones, elle a tenté quelque chose.
Ouais, qu'elle a là.
Zula, elle a essayé d'un backstab.
Oh, puis là, attention, le ralenti.
Tu peux mettre quasiment le son, tu sais, de l'homme de 6 millions de dollars.
Ah, je le connais pas, ça.
Ah, c'est pas grave. Donc, c'est ça, c'est Conan, voilà, tout va mal, les ténèbres sont sur le point d'entrer sur Terre, et la seule personne qui peut réussir à combattre la créature, c'est Conan.
Oui, Conan qui, en plus, brave ses peurs, parce que Conan est la sorcellerie.
C'est deux mondes différents, la force brute et la sorcellerie, ça ne sera
pas. Il aime pas la magie, hein. On a pu le voir dans Conan the Barbarian, quand il affronte la sorcière, là. Qui l'invite là, à passer une petite nuit dans sa hutte.
Tout à fait, c'est vrai. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est à ce moment-là où Akira donne la clé, c'est-à-dire la faiblesse de Dagoth, c'est sa corne.
The horn!
Mais pourquoi tu le fais pas juste avant que le combat commence, au lieu de laisser Conan se faire péter à gueule, de mettre sa vie en danger et de celle de tous les autres guerriers? Moi, je trouve ça très amusant.
Et la castration symbolique.
Puis cette scène-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est gore. C'est avec du son, t'entends les gémissements de douleur de la créature. Plus tu vas voir tous les tendons s'arracher un par un.
C'est quand même bien fait.
Ah,
là,
Moi,
j'aime bien la créature là, qui est gluante là, ou ce qui semble gluante là.
Ah oui, là,
ça genre de Swamp Thing.
Ça ressemble beaucoup un peu, tu sais, ça ressemble un peu dans le design, tu sais, à la fin de la mouche de Cronenberg.
Ouais.
Là, ça ressemble un petit peu à ça. Ouais. Au niveau de la face et des yeux, là, c'est très amusant. Ah, mais regarde ça, ça devient gore. Même tous les autres membres de l'équipe sont dégoûtés.
Je me souviens que ma blonde hier, elle regardait. Puis c'est drôle parce que tu vois, on dirait qu'il y a un paquet comme de verre, là, dans le sens de verre VER, là, des verres blancs, là, qui. Les
ça a l'air
tendons.
D'être purulent et de dégueulasse en dessous de ça.
Conan n'a rien à foutre de la corne, il veut prendre sa double-handed. Puis là, finalement, le monstre, il est mort, là.
Ben, le monstre est sur le point de crever, là.
Il meurt.
Il rampe par terre en attendant de se faire achever par Conan, chose qui va venir très, très bientôt. Mais voilà, le coup de grâce s'en vient.
Puis là, on va voir le poltron aussi qui va venir donner son petit coup de dague là,
ça,
symbolique.
Ce que j'aime bien, c'est ça, le petit coup de dague symbolique puis la musique glorieuse quand Conan met l'épée dans la tête, elle recommence. Le petit avec le poltron encore une fois.
C'est le thème de Destroyer, ça.
Exactement.
Je l'ai comme plus, là, mais...
Très amusant. Alors voilà, Conan a sauvé la Terre.
Oui. On est déjà rendu au lendemain. Petite ellipse, là, ici, de
c'est
temps.
Fou. Mais ça aussi, il y avait encore des similitudes. Tu sais, dans la fin des films d'aventure des années 80, t'as toujours la fameuse séquence d'une remise de prix ou remise des médailles, un peu à la Star Wars, encore une fois. Là, c'est la remise des félicitations par...
La nouvelle reine.
Par la nouvelle reine, Jenna, maintenant.
Oui, oui.
Qui a accédé au trône.
Qui
a accédé au trône encore plus jeune que la reine Elisabeth, tant passe. Hein.
On voit Zula, là, dans son saut de cérémonial. Là.
C'est traditionnel et cérémonial, effectivement. Est-ce qu'elle remet des prix ou juste des félicitations?
Non, en fait, elle les engage pour son royaume. Elle demande à Zula, en fait, d'être la reine des gardes. Pas la reine, mais la chef des gardes. Chose que Bumbata était.
C'est vrai, mais ça. Là, okay, elle se trouve du cheap labor.
Elle se trouve, là, c'est ça, elle se trouve la job.
Ah, tant mieux, puis elle va faire extrêmement bien la job.
Ben oui.
On ta place à mes côtés.
Puis en plus, ce qui est le fun dans ce film-là, c'est que la reine elle a le souci d'indiquer à Azula qu'elle peut faire autant la job étant une femme qu'un homme.
Tout à fait.
Alors là, on a un genre de quasiment comme un... Comment dire? Une twist féministe, là, si on peut dire.
Non, non, ben c'est exactement ça. Puis tant mieux. Là, lui, il se mérite quoi déjà quand notre
fool
famille Malak...
of the king. Every queen has to have a fool.
C'est un peu insultant quand même. Là,
ouais, mais... ben là, il trébuche dans les marches. Là, je sais pas si
c'est pas trop mal. En tant que fou du roi, il va avoir accès au château, au coffre-fort et tout ça, et aux richesses. Donc, il va pouvoir juste comme... partir avec le magot puis sacré.
Ah, peut-être.
Puis retrouver Conan.
Parce qu'il faut dire, là, on les a pas vus aller à la toilette là, depuis le début, mais Malak il a avalé quelques joyaux durant l'aventure.
ça va faire mal
au ventre. Là. Je sais pas s'ils ont eu le temps de faire ça là, pendant une coupe de chevauchée. Là, mais,
ouais, aïe, aïe. Hein, c'est,
ça ne doit pas faire du bien.
Ça, les selles devaient être assez consistantes.
Surtout que là, il voit bien qu'il n'y avait pas besoin de faire ça. Là,
c'est ça, exactement. Mais ça fait partie du personnage un peu peureux et tout ça.
Ah, oui. Genre d'égoïste. Et là, le sorcier qui se fait engager. Ben, il se fait engager en tant que sorcier de la reine, là, de la cour.
Et cuisiner chinois en ces temps libres. Parce que n'importe quel royaume ne peut pas se, passer d'un bon egg roll en fin d'une aventure.
Et là, Conan, qui se fait demander d'être, là, to rule beside
le roi.
Oui.
Des rois.
Every queen has, have to have a king.
Mais que va-t-il faire, Marc-André, devant cette proposition qu'on ne peut pas refuser?
Et là, il va lui dire que, malheureusement, il va avoir son propre royaume, sa propre reine, puis qu'il n'y en a rien à battre de ses avances de mineur.
Fuck you!
Ouais, I want to have my own kingdom.
Fuck you, asshole.
My own queen.
C'est vrai, ça.
Ouais.
Et voilà, mais il se mérite tout de même le baiser, cette tension entre les deux, le mini dénouement.
Ça l'a quand même froissé. Fait qu'imagine la reine devant tous ses sujets se faire refuser par un roi, je pense que...
Pour le mettre à mort.
Ouais, c'est ça, il aurait dû se faire backstabber par...
Zula, tue cet homme. Ah, man, ça aurait tellement fini dégueulasse, ça.
Et là, puis là, ben, la conclusion aurait pas pu être, parce que la conclusion est la même que dans le 1.
Ah, ça aurait été un twist assez incroyable. Oui. Conan meurt à la fin de son propre film, tué par tous ses amis, parce qu'il a refusé, genre, d'être...
Mais c'est quand même une insulte, là, pour une nouvelle reine, son premier acte de royal. En tout cas, ici, on a la conclusion, je te laisse finir.
Ah non, vas-y, continue. On a le temps, générique.
On a encore le travelling avant sur un Conan pensif, un Conan vieilli. King Conan, et là le narrateur dénué d'émotion, je trouve, dans sa façon de clore le récit, il lui dit que Conan, le film se termine en tant que, c'est quoi la formule,
c'est Conan, une conclusion
wearing his crown upon a troubled brow. Alors Conan n'est jamais en paix avec lui-même, en fait, jamais satisfait de qu'est-ce qu'il c'est pas pour rien qu'il est toujours en train de chercher de la job ailleurs.
C'est une fin ouverte, c'est une autre aventure comme on le dit si bien à la fin de chacun des films.
Ouais, c'est une fin.
Mais ça aurait été bien qu'il parte un peu, tu sais, qu'il y a une genre de finalité à Conan, parce que là, il s'en va dans son coin, un peu emo, tout ça, tous les autres ont droit au bonheur, mais moi je m'en vais parce que pour faire différent des autres et tout ça, ça aurait été bien d'avoir une genre de mini-conclusion, peut-être qu'il ait droit à un genre d'avant-goût de Valéria, de ce qu'on lui avait promis, je sais pas, peut-être une vision de Valéria qui lui dit, hey, ou je sais pas, une genre de matérialisation temporaire de Valéria. Tu sais, la reine avait de se payer un nouveau wizard, là, tu sais, elle aurait pu se faire matérialiser ça ou quelque chose de genre. Ça aurait pu être une fin un peu plus satisfaisante pour le personnage, qu'il y en a rushé tout le long du film, puis finalement, pourquoi? Parce qu'il y a rien eu à la fin, Conan. Il a juste sauvé la vie de quelqu'un qui avait jamais demandé à sauver la vie. Il a pas eu ce qu'on lui a promis.
C'est une aventure typique de Conan. Écoute, les nouvelles, ça finit toujours un petit peu plus, c'est pas une fin, une belle fin là, mais il y a tout le temps un peu un closure. Mais c'est sûr que dans les nouvelles, t'as pas le choix de terminer un peu ton histoire sur un point dramatique là. Mais c'est jamais ouvert comme ça que Conan est fini tout le temps par évidemment survivre à ses aventures là.
C'est simplement une fin ouverte pour une autre histoire
J'aime mieux les fins ouvertes que les fins fermées.
Ça se dit pas. On va dire que ça se dit ici.
Film on location in Mexico. Mexico, alors finalement, ouais. C'est au Mexique qu'ils ont filmé tout ça.
Tant mieux.
Les grands espaces.
On avait raison. C'est très bien. Fait que là, écoute, Conan, le Destroyer, qu'est-ce que t'en penses, là, ultimement? On vient de se leur taper, ça faisait longtemps que tu m'as dit que ça faisait très longtemps que tu l'avais pas vu. Fait que, écoute, maintenant, en 2014, que penses-tu de ce film-là?
Écoute, le film, c'est un film des années 80. Moi, qui est ma meilleure période en tant que ma meilleure période cinématographique, je trouve, pour les films de science-fiction, les films d'aventure. C'est quasiment la dernière décennie où c'est qu'ils tentaient de faire des choses, je dirais, là. Meilleure décennie pour les films d'horreur, les slasher movies surtout, là. Mais, non, moi, je trouve que c'est un film qui est satisfaisant. C'est une suite. Donc, les suites, c'est sûr qu'il faut qu'ils aillent chercher un peu plus de public. Fait qu'ils l'ont fait un petit peu plus, comme tu disais, familial. Mais je retiens un bon feeling du film. Je veux dire, moi, je trouve que c'est un film qui, quand même, qui s'accorde bien avec l'univers de Howard.
Tout à fait. Oui, ben, je suis d'accord avec toi aussi. Tu sais, c'est une suite, puis c'est pas un grand film, c'est aucunement un grand film, c'est un film qui peut être oublié et jamais être vu par quelqu'un, puis ça change rien à la vie de cette personne-là, mais ça donne ce que ça te propose, c'est-à-dire un film d'aventure, du fantasy, des combats d'épées, des monstres et tout ça, cette formule-là est
c'est bien garni comme histoire, moi je trouve que c'est bien garni, il y a plusieurs, puis c'est juste 1h40 quelque, il me semble, ce film-là.
1h38, c'est ça, tout est quand même bien...
C'est
bien compartimenté,
ouais.
C'est ça, bien condensé.
Ouais,
parce que t'as tout, encore une fois, comme je disais, t'as vraiment tout. Tu veux être diverti. Moi, je suis quelqu'un en 84 qui va voir ça. Je m'achète mon popcorn, puis j'ai envie d'avoir 1h30 de divertissement. Puis ce film-là me donne ça sans que j'aie besoin de penser ni rien, de mettre mon cerveau en écoute active. C'est exactement la promesse des films de Schwarzenegger de cette époque-là également aussi. Mm-hmm. Un pur divertissement. Puis voilà.
Ouais,
c'est
plus divertissant que le premier. Ben, je peux pas dire que le premier est pas divertissant. Le premier est plus épique. Donc, c'est sûr que. Puis il y a aussi un jeu d'acteurs, là, en James Earl Jones, qui n'ont pas le choix de lui donner. Il y a moins de vilains dans Conan the Barbarian parce que le film se centre sur Conan lui-même. Tandis que Conan the Destroyer, le film se centre sur une aventure de Conan et ses chummies. Là.
C'est ça, tout à fait.
Une compagnie de qui t'as le sorcier, t'as le voleur, t'as la guerrière et t'as le traître dans la gang. Ça épouse une formule qui était peut-être moins présente dans le premier. Le premier était vraiment un film sur un héros. C'était la journée, pas la journée, mais je sais pas comment traduire ça. The Journey of the Hero, c'est comme
c'est la quête
du héros.
C'est ça, le héros. Voilà. Ouais, effectivement, le parcours. T'as tout à fait raison. Eh ben, voilà. Ben, regarde, je suis content de t'avoir eu avec moi pour ça. C'est toujours très, très le fun. Puis, comme je te disais, t'es le spécialiste de Schwarzenegger dans ma gang et de Conan et Accenture. J'ai un peu de ce type de littérature-là. Fait que je trouvais que t'es la meilleure équipier pour ça, pour retrouver ce succès des années 80, tout ça. Alors, voilà. Je te remercie énormément d'être joint à nous autres.
Ben, merci de m'avoir invité à regarder un Conan avec toi.
Puis on remet ça aussi. Écoute, tu te connais
Red
dans plein d'autres films. Red Sonja, pourquoi pas?
On pourrait peut-être rire un peu plus.
Ah oui, regarde, je pense que ce serait assez mémorable. Regarde, on se le met sur la liste, celle-là. Puis voilà, pour ceux qui nous écoutent sur nos pages Facebook et Twitter, vous nous ferez encore une fois des suggestions. C'est toujours très amusant d'avoir votre output là-dessus. Alors là-dessus, moi, c'est Sébastien Bourget. Je suis en compagnie de...
Marc-André Roy.
Alors, et c'était notre commentaire pour Conan the Destroyer. Alors, on espère que vous êtes bien amusés. Alors, au revoir à la maison. Marc-André, tu dis au revoir?
Oui, salut!